n'ai pas enregistré le titre. Donc le titre d'intervention aujourd'hui du message, c'est « Qu'implique l'ascension de notre Seigneur pour nous ?» Qu'implique l'ascension de notre Seigneur pour chacun de nous ? On met beaucoup l'accent, à juste titre, sur la mort de Jésus et sur sa résurrection. On parle peu de son ascension. Pour preuve, à ma connaissance, l'Église, que je connais, évangélique, j'ai l'impression qu'on parle peu de ce jour d'ascension pour que les frères se réunissent. On parle plus du pont pour partir en vacances. Je ne le critique pas. C'est une bonne chose, on l'a fait. Donc, c'est la première année que nous célébrons l'ascension. Mais nous partons dans le sud, 4 jours. Viviane regrette toujours le retour avec les bouchons. Elle dit, on recommence plus. L'ascension représente pourtant, elle aussi, une vérité spirituelle. Et on a grand tort d'en méconnaître l'importance. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus se présenta vivant. Je ne vais pas vous lire tous les passages de la Bible, mais je donne les références qui seront enregistrées. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus se présenta vivant. Acte 1, verset 3. Et se présenta aux femmes près de la tombe. Matthieu 28, versets 9 et 10. Il s'est présenté à ses disciples. Luc 24, versets 36 à 43. Il y a plus de 500 autres personnes. Il s'est présenté, le Seigneur. Il s'est montré. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6. Les jours après la résurrection, Jésus a enseigné ses disciples concernant le royaume de Dieu. Vous pouvez lire les Actes des Apôtres, chapitre 1 en l'occurrence. 40 jours après la résurrection, Jésus et ses disciples se sont rendus au mont des Oliviers, près de Jérusalem. Tous les mots ont un sens. Pourquoi 40 jours? Pourquoi le mont des Oliviers? Rappelons-nous, le mont des Oliviers, ou que ce soit la montagne, dans l'histoire de la Bible, quand on la lit, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu d'élévation. Oui. Il emmène ses disciples vers Dieu, et c'est là qu'il leur dit, « Bon, mais je vais partir. » Pourquoi 40 jours après? Ça aussi, c'est un chiffre d'épreuve qui nous transforme. Là, Jésus leur a promis qu'il recevrait bientôt le Saint-Esprit et leur a demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il vienne. Puis, il les a bénis et pendant qu'il les bénissait, il est monté au ciel. Le récit de l'ascension de Jésus se trouve dans les passages que nous avons lus tout à l'heure, dans Luc chapitre 24 et les Actes des Apôtres chapitre 1. Les Écritures montrent clairement que l'ascension de Jésus était une montée au ciel littérale et physique. Ce n'est pas une imagination. C'est réellement passé ainsi. Parce que je lis des écrits des fois, je les ferme tout de suite après. On part dans les explications philosophiques de quelque chose qui n'a jamais existé. Ça existait réellement. Jésus est monté au ciel littéralement et physiquement. Il s'est petit à petit élevé au-dessus du sol, sous les yeux d'un grand nombre de témoins attentifs. Alors que les disciples s'efforçaient de l'apercevoir une dernière fois, une nuée l'a caché à leurs yeux. Deux anges le sont alors apparus et leur ont promis qu'ils reviendraient de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. L'ascension de Christ est importante pour plusieurs raisons. Elle marque la fin de son ministère terrestre, certes. Par amour, Dieu le Père avait envoyé son Fils dans le monde, à Bethléem. Et maintenant, le Fils retourne au Père. La période pendant laquelle il avait été soumis aux limitations humaines était terminée. Et bien, mes frères et sœurs, nous ne connaissons plus le Seigneur dans cette limitation humaine, bien qu'il était Dieu parmi nous. Parce que nous le connaissons tel que Dieu est. Parce qu'il existait avant la fondation du monde, il existe et il existera. Toute chose subsiste en lui, par lui. Et c'est ce Seigneur en qui nous croyons. Ne le ramenons pas toujours à cet être historique Quelle limitation, que Dieu nous pardonne. Et quand je vois ces croix, le Christ accroché dessus, on met dans nos maisons, j'ai bien aimé la réaction d'Inès, sa mamie, quand elle lui demande, mais pourquoi le Christ est sur la croix, puisqu'il est ressuscité? Il faut l'enlever. L'ascension indique le succès de son œuvre sur terre. Il avait accompli tout ce pourquoi il était venu. Elle marque son retour à sa gloire céleste. La gloire de Jésus avait été voilée pendant sa vie sur terre, avec la courte exception de sa transfiguration. On avait reçu un acompte, la transfiguration. Les deux disciples qui étaient avec le Seigneur, Pierre et Jean, ont vu le Seigneur autrement. Ils étaient décontenancés. L'ascension symbolise son élévation par le Père. Il suffit de lire l'Épître aux Éphésiens, surtout le chapitre 1. Celui à qui le Père avait donné toute son approbation a été accueilli avec les honneurs et a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il suffit de lire l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 9. L'ascension lui a permis de nous préparer une place, comme nous l'avons entendu ce matin. Parce qu'il y a eu l'ascension, mais il n'y a pas eu d'ascension s'il n'y avait pas autre chose avant. La mort et la résurrection. Et parce qu'il est monté, il nous prépare une place. Et s'il nous prépare une place, raison de plus que nous devons y penser avec un tel dévouement que je ne peux pas m'écarter de ma relation avec le Seigneur. Tellement je dois m'occuper de la place qu'il m'a préparée. Il suffit de lire l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2. L'ascension marque le début de son ministère de souverain sacrificateur, de médiateur, comme nous l'avons entendu encore ce matin. Et je vous invite à lire la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16. Il est médiateur de la nouvelle alliance, nous dit l'Épître aux Hébreux. Chapitre 9, verset 15. L'ascension établit le modèle de son retour. Jésus reviendra, bien que ce verbe gêne, viendra de la même manière qu'il est parti. Littéralement, corporellement et visiblement sur les nuées. Ne tombons pas encore une fois dans des discours philosophiques, théologiques, comment il va revenir, et que c'est tel qu'il est parti. Et je vous invite à lire des passages dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, Daniel, chapitre 7, verset 13 et 14, l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 30, et l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, entre autres, il y en a d'autres. Pour l'instant, le Seigneur Jésus est au ciel. Il est au ciel. Il est là où il doit être, normalement. Il a toujours été au ciel. Mais son premier amour, c'est d'avoir quitté le ciel pour venir au milieu de nous, nous prendre tel que nous sommes en lui. Lui qui n'est pas pécheur, nous sommes. Je pense que c'est une des premières souffrances. Pour moi, la grande souffrance du Seigneur, ce n'est pas les clous sur la croix. C'est le fait de quitter le ciel pour venir dans ce monde. Ça doit être une souffrance atroce. Comment peut-on compacter la mer dans un verre? Vous vous rendez compte de la souffrance? C'est une première souffrance. Et c'est un acte d'amour. Le Seigneur Jésus est au ciel. Les Écritures le représentent souvent à la droite du Père. Une position d'honneur et d'autorité. Et là encore, je vous invite à lire dans la parole de Dieu le psaume 110, verset 1, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 20, et la lettre aux Hébreux, chapitre 8, verset 1. Je vous épargne la lecture de tous ces passages, mais sinon on restera toute la matinée. Christ est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. Je dirais, Christ est la tête de l'Église, tout simplement. Christ est la tête du corps qui est son Église. Nous sommes l'Église et la tête doit être le Seigneur. S'il y a autre chose que le Seigneur, ce n'est plus l'Église. On peut avoir les meilleurs bâtiments, la meilleure association, l'argent qu'on veut, mais si le Seigneur n'est pas la tête, nous sommes rien. Je dirais même au point, il ne nous voit même pas. Je vous invite à lire l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il donne les dons spirituels et il remplit tout l'univers. C'est ce Seigneur-là en qui on le croyons. Ce n'est pas seulement cet être historique. Il remplit tout l'univers. C'est celui-là, notre Seigneur. Et je vous invite à lire la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 9 et 10. Et vous verrez que notre Seigneur, il n'est pas seulement un être historique. Il est le Fils de Dieu, qui est, qui était, qui sera. Il est celui qui remplit tout l'univers. L'ascension de Christ marque la transition entre son ministère terrestre et son ministère céleste, auquel nous sommes appelés. Pas plus tard, non, ça commence ici-bas et ça continue dans l'éternité. Ceux qui disent c'est après la mort, cette réalité céleste, c'est un mensonge. Quand nous recevons le Seigneur par l'Esprit en nous, nous avons reçu l'éternité. Nous avons reçu notre réalité céleste. Elle commence ici-bas et elle continue après la dernière métamorphose quand on quitte notre corps. Mais que représente l'ascension de notre Seigneur pour nous? Ce sont que des belles choses que je viens de vous dire. Nous contemplons, on est en admiration devant tout ça. Mais ça a une réalité spirituelle pratique dans notre vie de tous les jours. Tout autant que la mort et la résurrection, l'ascension est à la base de notre vie en Christ. Et elle est essentielle à l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. En effet, comme nous avons été crucifiés avec lui, la parole nous le dit, comme nous avons été ensevelis avec lui, comme nous avons été rendus à la vie avec lui, nous sommes aussi élevés, glorifiés avec lui. N'oublions pas cette réalité aussi. Tout ça, c'est fait. Vous voyez, nous ne cherchons pas avec notre logique à comprendre. C'est fait. Et nous sommes même plus. Nous sommes assis à la droite du Père, avec lui et en lui. C'est une réalité accomplie, c'est une réalité spirituelle que le diable fera tout pour mettre de côté et nous laissera toujours vivre une vie chrétienne terrestre basée sur les efforts. Alors qu'une réalité qui est déjà accomplie et le Seigneur a payé le prix. C'est notre position spirituelle acquise par le Seigneur à un grand prix. Que le diable ne fasse pas détourner de cette réalité-là. En Christ. Mais cette réalité, certes, a du mal à trouver une logique humaine. Mais ce n'est pas grave, acceptons cette folie dans la foi. À partir de la naissance d'en haut, tout dans une vie chrétienne véritable vient d'en haut. Depuis les motivations les plus secrètes de notre activité jusqu'à ses développements les plus lointains, toutes les initiatives, tous les objectifs à atteindre, tous les détails d'exécution, tout doit venir d'en haut. C'est une transformation, mes frères et sœurs. Certes, ça fait beaucoup, mais c'est progressif. C'est une transformation progressive et durable. Où est notre cœur? Est-ce que notre cœur aspire à cela? Eh bien, c'est progressif, le Seigneur nous amène. Et si nous cherchons le compromis, eh bien, ça sera comme l'Odyssée, l'exil d'Odyssée. Vous savez ce qu'il lui a dit, le Seigneur? On l'a lu ici, on l'a vu. Il n'a pas dit « je te rejette ». Il a dit pire que ça. C'est encore pire. « Je te vomirai ». Vous vous rendez compte? Le cri du cœur de tous les citoyens des cieux, parce que nous le sommes, reste pour toujours celui du psaume 87, verset 7. « Tous mes sources sont en toi. » Aspirons-nous à cela. Leur vocation est une vocation céleste. Leur vie tout entière, leur vision, leurs envies, leurs marches, leurs espérances, tout est céleste pour eux. En tout cas, leur cœur désire que tout cela soit céleste. Parce que de nous-mêmes, je le rappelle, nous ne pouvons rien. Mais la disposition de notre cœur fait de nous des chrétiens transformés progressivement. Mais encore une fois, où est mon cœur? Où il est? Nous avons besoin de réaliser cette richesse spirituelle. J'ai besoin de réaliser cette richesse. Ça fait 30 années, plus de 30 ans, que j'ai rencontré le Seigneur. En quittant ma culture. Pourquoi je ne l'ai pas quitté par la force des choses? Parce qu'en quittant ma religion, par la force des choses, je suis rejeté par ma culture. Et vous connaissez le témoignage. Parce que depuis le début, j'ai envie de connaître le Seigneur. Et plus je cherche à le connaître, plus je me rends compte que je ne le connais pas. Oui, c'est... Plus en fait, on a soif tous les jours. Et plus on cherche à le connaître, plus on a envie de le chercher, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où on quitte cette terre. Mais tant que je suis dans ce corps-là, je ne le connaîtrai pas assez. Nous avons besoin de réaliser cette richesse spirituelle. Nous avons besoin, en tant qu'Église, de cette révélation pour marcher quotidiennement en tant que riche en Christ et ne pas toujours se considérer comme pauvre. Dans un monde où le christianisme paraît comme pauvre, impuissant, et je dirais même immoral, quand je vois tellement de choses. Quand j'entends, et je l'ai entendu, qu'on nomme maintenant des homosexuels pasteurs, comment pourrais-je vivre une communion chrétienne? J'ai entendu. Ça existe. Je n'ai pris qu'un exemple. Il y en a tellement. Il y a deux vérités dans la parole de Dieu auxquelles il est fait fréquemment allusion. La première, c'est que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et c'est une réalité. Invoquons cette réalité-là parce que c'est la nôtre en Christ. La seconde est que nous sommes sur la terre des étrangers et des pèlerins. Si nous attachons à ce monde, n'oublions pas que nous sommes des étrangers et des pèlerins. Rien ne nous appartient et on laissera tout ici. Et j'aime bien, quand j'étais petit, dans ma famille, mon père me dit toujours, rappelle-toi mon fils, quand t'es né comment? Comme ça. Je veux tout pour moi. Et quand tu meurs, tu veux comme ça. Oui. C'est naturel. Dès qu'on est né, on veut s'accaparer le monde. Je veux que cette terre à moi, c'est comme si elle était éternelle pour moi. Mais on oublie que quand on part, on n'apporte rien et on lâche tout. Ces deux affirmations sont utiles pour une bonne interprétation de la parole de Dieu. Notre vocation en Christ a son origine dans les cieux. Nous nous nourrissons de notre position en Christ dans le ciel, pas de cette terre. Ça s'appelle la religion de cette terre, avec les lois. Et j'en connais. Mais notre source, c'est le ciel. Là où il est le Christ. C'est de là que nous tirons notre origine, notre réalité en Christ. Son développement est dans les cieux. Son aboutissement est dans les cieux. Le modèle auquel nous devons être conformes est dans les cieux, c'est-à-dire à Christ. C'est cette réalité, cette position spirituelle qui doit nourrir notre vie terrestre. Vous voyez, on a inversé. Souvent on dit, c'est la loi de la terre, les lois que je parle de ce que je connais de ma religion, c'est par rapport aux lois auxquelles tu obéis, par rapport à ton obéissance, par rapport à ce que tu fais, tu mériteras ou tu ne mériteras pas le ciel. Et bien la foi chrétienne, c'est l'inverse. Je me nourris de ma position en Christ qui me transforme sur terre pour me ramener vers Christ. Oui, ça n'a rien à voir. Notre relation progressive avec le Seigneur nous fait découvrir notre position céleste et dans notre position spirituelle qui nourrit notre marche avec lui. Ah, voilà. Je marche par cette communion que j'ai avec le Seigneur dans le ciel. C'est par l'Esprit que nous pouvons faire mourir les œuvres de la chair. Je ne fais que prendre la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je n'ai fait que vous lire Romains, chapitre 8, versets 13 et 15. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter de nous émerveiller de l'ascension de notre Seigneur, parce que nous ne célébrons pas l'ascension en tant que chose, mais c'est notre Seigneur que nous célébrons. Tel que rapporté dans les évangiles, mais nous sommes appelés aussi à nous préparer pour notre propre ascension. Oui, notre propre ascension, quand le Seigneur viendra ou reviendra. Néanmoins, cette ascension finale que l'Église tend en nous attendant, cette ascension finale doit être précédée, pour moi en tout cas, d'une succession de petites ascensions. Elle doit être précédée de successions de petites ascensions intérieures qui s'opèrent au fond de nous-mêmes dans notre vie ici-bas, dans les détails de notre vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'on a parlé ces dernières semaines? Les détails. Il est bien, Seigneur, j'arrête de mentir, j'arrête de voler, j'arrête de tuer. C'est gros, tout le monde le fait. On n'a pas besoin d'être chrétien pour le faire, pour changer. Mais dans les petits détails que le Seigneur montre, « Ah, Abdel, tu sais que les étudiants t'ont téléchargé un logiciel piraté? Il coûte 1000 euros, mais tu l'as gratuit, tu sais, c'est un vol. » Des petits détails. Oui, des petits détails. Tu roules à 130 alors que c'est 80 et tu continues à appuyer sur la pédale. C'est un petit détail. Je manque de respect à ma femme, mes enfants. Où j'utilise des gros mots quand je suis à l'extérieur de l'église. J'ai connu. Quand on est dans le monde, on parle comme les jeunes. Quand on est à l'église, on change de langage. Des petits détails. Et j'en passe. C'est dans les petits détails que l'œuvre de Dieu se manifeste en nous. C'est ce que plusieurs hommes de Dieu appellent la métamorphose intérieure. Appelez ça comme vous voulez. Cette métamorphose n'est pas une option puisque le Seigneur veut la réaliser en nous par son esprit, en préparation de la grande métamorphose, tant attendue, quand nous nous serons élevés pour aller à sa rencontre le jour de son avènement, le jour de son retour. Cette métamorphose s'opère grâce à un principe inhérent à la foi chrétienne et qui a fait de moi un chrétien un jour. Grâce à quelque chose que ma religion ne veut pas reconnaître, minimise, met de côté, ou voire interprète d'une manière erronée. Grâce au principe de la croix. Sans la croix, nous n'avons aucune existence. L'Église n'existe pas sans la croix. La mort et la résurrection. Le principe de mort et de résurrection doit nous poursuivre durant toute notre vie. Il nous fait passer quotidiennement de la mort à la vie, sur les petites choses. C'est ce que le Seigneur exprime en disant que celui qui ne porte pas sa croix pour le suivre n'est pas digne de lui. Ou peut-être voulons-nous effacer cette phrase. À partir de la naissance d'en haut, tout dans une vie chrétienne véritable vient d'en haut, comme je le viens de le dire. Nous tirons notre source d'en haut, pas d'en bas. Nous sommes des citoyens du ciel. Mais c'est énorme à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. J'en ai marre de cette vie chrétienne pauvre. Nous sommes des êtres célestes. La Bible nous le dit et je crois à la parole de Dieu. Je suis assis à la droite du Père en ce moment même. Je suis en Christ. Et le cri du cœur de tous les citoyens des cieux reste pour toujours, comme je l'ai dit, psaume 87, verset 7. Toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Rappelons-nous que l'ascension s'est réalisée 40 jours après la résurrection du Seigneur. Cette période de 40 jours, le chiffre 40, renferme une vérité et un enseignement spirituel, comme pour nous dire que l'ascension finale que nous attendons avec émerveillement exige une préparation, une transformation. L'ascension finale que nous attendons est le résultat et la conséquence d'une transformation et d'une métamorphose quotidienne symbolisée par le chiffre 40. Et je ne vais pas vous emmener dans la culture hébraïque. C'est le cas des 40 années de marche du peuple hébreu dans le désert qui a permis de dévoiler l'aliénation de la nature humaine qui, une fois confrontée aux épreuves de la vie, une fois confrontée à la tentation du monde, elle est tentée par une rébellion qui la pousse à rejeter son créateur, ou au meilleur des cas, à instaurer un compromis. Un peu de Dieu et un peu de moi, un peu du monde. On sait que ces 40 années qui demandaient des sacrifices personnels, et là je rappelle que la foi chrétienne est un sacrifice permanent. Et j'aime bien, c'est Bonhoeffer qui disait, c'est la grâce qui coûte. D'ailleurs, j'ai mis sur le site, vous pouvez le lire, parce que tellement c'est parlant. Ça remet un peu en question beaucoup de pensée ou de théologie, on dirait, en fait, qui dit, en fait, du moment qu'on a reçu le Seigneur, allez, buvons, mangeons, de toute façon, on est sauvés. 40 années que demander des sacrifices personnels ont fait une certaine sélection je mets entre guillemets sélection parce qu'elle peut être mal comprise, par la force des choses, puisque tous les Hébreux, sortis d'Égypte, n'ont pas tous atteint la terre promise. Malgré la présence de Dieu au milieu d'eux. Une histoire qui doit nous alerter. Nous devons être questionnés. Car les appelés, je peux être remis en question, mais que le Seigneur m'éclaire. Car les appelés ne sont pas tous automatiquement des élus. Ceux qui ont atteint la terre promise représentent ce que le livre de l'Apocalypse appelle les vainqueurs. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est des vainqueurs au singulier, c'est-à-dire à chacun. C'est une responsabilité individuelle devant Dieu. Le Seigneur n'a pas dit lui-même, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On pourrait dire autant des 40 jours de pluie du déluge. On peut parler des jours passés par Moïse sur le mont Sinaï, et même des 40 jours passés par le Seigneur dans le désert, juste après son baptême. Cette histoire nous rapporte que le Seigneur a été tenté, mais il est sorti vainqueur. Cette histoire et cette épreuve se terminent merveilleusement bien avec le Seigneur par deux versets où il est question, in fine, d'adoration de Dieu qui en retour s'occupe de nous. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la finalité de tout chrétien. Alors le diable laissa, et voici des anges vint auprès de Jésus et le servaient. Voilà le retour. J'adore le Seigneur. Je le sers, et en retour, il s'occupe de moi, il me nourrit. Mais tout ça, c'est le fruit d'un passage de 40 jours, d'épreuves, de mort à soi-même, de sanctification. Donc la vie chrétienne est un cheminement. Il faut tenir la route. Je termine par rappeler que le fait de tendre vers une métamorphose personnelle, en laissant l'esprit nous guider à travers une relation quotidienne intime, que nous sommes appelés à accentuer dans la prière et la méditation, ça n'exonère pas le corps qui est l'Église. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. L'épanouissement de l'Église en tant que corps du Seigneur dépend de l'épanouissement de chaque chrétien qui la compose, et inversement. Je vais plus loin. Je l'ai déjà dit. Mon épanouissement spirituel avec le Seigneur, mon avancement avec le Seigneur vers la maturité, dépend de chacun de vous. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de moi. Et inversement, votre épanouissement, votre avancement dans l'Église, vous dépendez de ma relation avec le Seigneur. Et tout cela, chapeauté par le Seigneur. Si nous n'avons pas conscience de la responsabilité des uns vis-à-vis des autres, nous n'avons rien compris à l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, c'est pas « je t'invite à manger » ou « je dis ce que tu invites ou je te sers dans mes bras ». Non, c'est le sacrifice. Pour ton avancement, Roland, pour ta relation avec le Seigneur, je dois marcher avec le Seigneur et je dois m'inquiéter de ma communion avec lui. Si je n'ai pas ce souci-là, je ne connais rien à l'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Parce qu'il dépasse, c'est un sacrifice. Et l'inverse doit être vrai. La responsabilité de chaque enfant de Dieu dans l'Église et membre de l'Église. Et parlant d'Église. Je ne fais pas référence, quand je parle d'Église, à un bâtiment, ou à une structure administrative, ou juridique, encore moins une dénomination. Je crois que je n'en connais pas toutes. Il y en a tellement. Je suis pour la diversité. Mais faisons attention que la diversité ne devienne pas une différence. C'est très subtil. La diversité est une richesse devant le Seigneur. Mais souvent, on fait de la diversité une différence. Combien de fois on cherche à détailler notre confession de foi? Pourquoi faire? On veut se différencier des autres. L'Église n'est pas une société terrestre, une institution, une organisation d'ici-bas. Elle est un corps céleste. Et le Christ à la droite du Père. Les systèmes ecclésiastiques de ce monde, qu'on l'appelle Église ou les Églises, n'en sont trop souvent qu'une grotesque caricature. J'ai mesuré mes mots. Dieu ne sait pas ce que c'est que les Églises, tel que les hommes les connaissent, au sens où l'on entend ce mot en général. Dans la pensée et les préoccupations de Dieu, il n'y a jamais eu qu'une église avec un E majuscule, c'est Christ. C'est cette assemblée des premiers-nés dont parle l'Épître aux Hébreux. Toute la confusion dont nous sommes les témoins dans ce domaine aujourd'hui est due à ce perpétuel vouloir de l'homme de constituer sur la terre quelque chose qui soit de Dieu. Voyez ? Même là, la nature humaine est subtile. Elle veut s'accaparer Dieu. Elle veut l'expliquer à sa manière. Elle veut expliquer Dieu de choses qui viennent de la terre. Nous sommes du ciel. Dieu ne se mêle pas à cette affaire-là. Il laisse tranquillement les entreprises humaines s'épuiser dans leurs efforts ou se perpétuer dans leurs illusions. Pendant ce temps, tranquillement, il superpose les pierres et édifie en temple spirituel et en édifice céleste ceux qu'il a élus dès la fondation du monde, ceux qui acceptent de porter leur croix dans un dévouement tel que leur objectif devient progressivement celui de l'apôtre Paul qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je le prends comme un objectif progressif. Nous devons tendre vers cela. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que tu nous aides à atteindre cet objectif. Impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. C'est cette église sanctifiée, purifiée et préparée en tant qu'épouse qui ira à la rencontre de son époux. Le jour de son avènement, c'est pour ne pas rater cette dernière ascension que nous sommes appelés aujourd'hui à vivre une succession d'ascensions intérieures que l'Esprit veut opérer en nous, sans lesquelles je crains, mes frères et sœurs, je crains de le dire, je crains de le répéter, nous risquons de ne pas faire partie de ces glorieuses noces de l'agneau. Ne pas le dire, c'est se mentir aussi. Si nous réfléchissons devant Dieu à toutes ces choses, je suis convaincu que ces exhortations trouveront un sens tout nouveau dans notre cœur, dans le mien le premier, à la lumière de la parole de Dieu. Donc voici quelques passages qui nous sont familiers. Je vous les cite et je termine. Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut où Christ est. Voilà où nous devons nous nourrir. Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Source céleste. Colossiens chapitre 3, verset 2. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Source céleste. En Christ. Si nous voulons paraître avec Christ dans la gloire, il faut que, déjà maintenant, notre vie soit cachée avec Christ, et nous l'avons entendu évoquer ce matin. Et que nous-mêmes, nous soyons morts aux choses de la terre. Notre frère n'a fait que relater Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. Merci Seigneur de nous avoir permis, à moi le premier, de m'attarder sur l'ascension, sur ce qu'elle m'apporte, ce qu'elle demande comme exigence pour moi, personnellement, pour que je puisse partager avec vous ces quelques paroles avec la faiblesse humaine. Que Dieu nous aide. Amen.